Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ils peuvent deviner la nature d'un objet choisi par une personne dans le public, tiré au hasard. Mais choisir et se livrer au hasard, bref, ils peuvent couper un autre objet et le raccommoder comme cela, sans effort. Ils peuvent aussi faire flotter à 80 cm, à 1 mètre du sol, des choses ou des êtres vivants. Quel talent, quel art, quel spectacle! Ils peuvent aussi lutter contre les mystifications des charlatans, dénoncer leurs mensonges. Eux, les prestidigitateurs, ils ont tous signé le serment du secret. Dans le premier volet de La Science en Marche, diffusé hier dans les Nuits de France Culture, François Le Lyonnais et son invité avaient évoqué la prestidigitation et les techniques mécaniques, optique, chimie, mathématiques, ainsi que les nombreux automates de Robert Houdin, entre autres. Voici le deuxième et dernier volet de cette émission, proposé pour la première fois sur France Culture le 27 janvier 1972.
La semaine dernière, j'avais invité un prestidigitateur bien connu, Michel Seldo, à venir à ce micro et dans cette émission La Science en Marche, je crois que nous avons répondu à la vocation de La Science en Marche. Je lui ai en effet posé les questions principales. Les sciences, les techniques sont-elles utilisées par les prestidigitateurs? Nous avons fait un bref tour d'horizon. Nous sommes aperçus que effectivement, il y a certaines applications qui viennent surtout de la mécanique, de l'horlogerie, et ça a été d'ailleurs pour nous une occasion de rendre un hommage à Robert Houdin, au grand Robert Houdin, dont Michel Seldo a d'ailleurs été l'historiographe. Et puis, après la mécanique, nous avons vu quelques applications de l'optique avec l'utilisation de miroirs, quelques applications de la chimie également, la chimie des liquides, quelques applications de l'électricité. Et ici, c'est le moment de dire que Robert Houdin a utilisé, à une époque où c'était vraiment très novateur, a utilisé l'électroaimant pour empêcher de soulever des objets, par exemple.
C'est juste.
Et enfin, nous n'avons pu trouver aucune application de l'infrarouge. Oui, quelques-unes de l'ultraviolet, dans la mesure où ça permet de faire voir des objets recouverts d'une peinture fluorescente et d'empêcher de voir le reste. Enfin, pratiquement rien en l'électronique. Finalement, si je vous comprends bien, vous me déclarez que la technique de la prestidigitation n'a pas tellement changé depuis des temps immémoriaux et que les grandes découvertes scientifiques ont apporté par-ci par-là quelques éléments, mais qu'elles n'ont pas bouleversé votre art. Mais votre art, sur quoi repose-t-il au fond?
Écoutez, c'est très difficile de résumer en quelques mots et d'analyser cet art. Mais si vous voulez simplifier les choses, nous allons parler de trois facteurs différents. Le premier, et ça c'est celui qui est le plus beau, il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais enfin il est le plus beau et le plus pur, mais c'est la manipulation pure, c'est-à-dire la manipulation faite avec des objets qui ne sont pas truqués, aucunement truqués.
C'est l'habileté manuelle.
C'est l'habileté manuelle, c'est-à-dire les cigarettes, les boules de billard, les pièces de monnaie, les cartes, les dés à coudre, les dés à jouer. Et je dois vous dire que, puisque depuis quelques années, il y a la manipulation des colombes qui fait fureur sur les scènes des cabarets et des music halls, eh bien, on manipule les colombes, ce que personne ne pouvait se douter jadis.
Mais oui, sans leur faire de mal, j'espère.
Sans leur faire de mal.
J'en suis sûr. Oui,
elles sont un tout petit peu à l'étroit quand on les a cachées, mais c'est tout ce qu'on peut leur faire. Bon. Le deuxième facteur, alors qui joue dans tous les domaines de la prestidigitation, c'est-à-dire d'un côté dans la manipulation pure et de l'autre côté dans la présentation des expériences d'illusion basées sur des appareils, c'est la psychologie. La psychologie, ça on l'apprend ou on l'apprend pas, ça dépend, il vaut mieux ne pas l'apprendre et l'avoir en soi. C'est comme pour le piano, il vaut mieux avoir du talent pour jouer du piano que ne pas en avoir. C'est-à-dire, il faut attirer l'attention du public vers un endroit qui n'est pas crucial, c'est-à-dire, je m'explique, si vous voulez avec votre main gauche sortir quelque chose de dessous de votre veston, de votre poche, vous élancez votre main droite en l'air, et puis vous fixez votre main droite, et tout le monde regarde votre main droite, et pendant ce temps-là, et très tranquillement, vous pouvez sortir l'objet dont vous avez besoin, que vous, c'est-à-dire l'objet que vous voulez faire apparaître, avec la main gauche.
Puissance alors, de la psychologie.
Oui, et je crois que ça, c'est assez important.
Bien
alors
sûr.
Ça, comme je vous l'ai dit, il y a des élèves illusionnistes qui l'ont en eux-mêmes, déjà, et puis d'autres, il faut leur expliquer, ce qui est un tout petit peu plus
bien
embêtant.
Sûr.
Bon. Ensuite, nous avons donc comme troisième,
troisième facteur,
c'est la technique. C'est-à-dire la technique de cours.
Les trucages.
C'est alors, les trucages, c'est-à-dire les boîtes à double fond, les boîtes, bien que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, que les trucs à miroir sont utilisés surtout dans les foires, mais il y a quand même des boîtes avec des... avec des miroirs à l'intérieur pour cacher quelque chose, etc. Alors là, il faudrait quand même... vous savez, c'est très difficile de simplifier les choses. Ces trucs-là, basés sur des appareils truqués, sont quand même un tout petit peu liés à la prestidigitation du manipulateur.
Tout se mélange souvent,
voilà. Alors, si vous voulez... si vous voulez abréger, nous avons... trois types différents de trucs. Le premier, c'est, par exemple, deviner quelque chose que le spectateur a choisi. Ça peut être une carte, ça peut être un foulard, ça peut être une orange, un fruit, etc., etc. Le deuxième, c'est de couper et de raccommoder.
C'est fréquent, en effet.
Alors, si vous voulez bien, nous allons passer d'un extrême à l'autre. On peut couper une ficelle et la raccommoder. Mais vous pouvez aussi couper votre femme, monsieur le Lyonnais, et la raccommoder si vous voulez. Bon.
Si je suis sûr de la raccommoder, pourquoi pas?
Oui, si vous avez appris la bonne méthode.
Voilà.
Enfin bref, ce sont... naturellement, il y a mille choses. On déchire des foulards, on brûle des foulards qu'on raccommode, etc.
Oui.
Mais le principe...
Des journaux, etc.
Des journées, etc. Mais le principe est le même. Et... Le numéro 3 parmi les tours, c'est de faire flotter des choses ou des êtres. C'est-à-dire, vous pouvez faire flotter une boule. Il y a de très jolies expériences avec des boules métalliques qui commencent à flotter miraculeusement à travers l'espace.
Oui.
Mais vous pouvez, pour revenir de nouveau à votre femme, monsieur le Lyonnais, faire flotter votre femme dans les airs. Bon.
Pourquoi pas?
Il y a quand même un quatrième effet. Ça, c'est de deviner, encore une fois, des chiffres, des additions. Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. C'est-à-dire, vous faites noter par les spectateurs différents chiffres et vous avez, à l'avance, s'il vous plaît, noté sur un papier ou sur une ardoise, caché dans une enveloppe ou dans un sac, le résultat qui va être lu tout à l'heure.
Ah bah c'est très astucieux.
Voilà.
Eh bien, si vous voulez, maintenant que vous nous avez, je ne dirais pas dévoilé les secrets de la prestidigitation, c'est défendu, mais enfin, donner une idée de ce qu'elle est, je crois qu'il vaut la peine de dire que la prestidigitation a un mérite très important. Enfin, à mes yeux, c'est un mérite très important, et aux yeux de beaucoup de scientifiques. Elle constitue une arme efficace dans la lutte contre l'occultisme, dans la lutte contre les fausses sciences, et dans la lutte contre la démystification des charlatans, chaque fois qu'elle permet de faire en public, et en disant que c'est truqué, des expériences dont on serait tenté de jurer qu'elles ne peuvent s'expliquer que pour des raisons surnaturelles.
Oui. Alors ça, c'est, je crois, le grand mérite des illusionnistes d'essayer de dévoiler les charlatans. Alors là, je voudrais ouvrir quand même une parenthèse.
Oui.
Les illusionnistes ne sont pas... de nature anti-spirit et anti-occulte.
Ils pensent ce qu'ils veulent.
Mais ils essayent, de vous expliquer comment on peut faire, comment on peut produire des effets surnaturels avec des tours de passe-passe.
Exactement.
Et d'ailleurs, tous les grands illusionnistes dignes de ce nom ont un tout petit peu dévoilé les expériences des occultes. Par exemple, Robert Houdin déjà, un célèbre illusionniste toulousain qui s'appelait Marius Cazeneuve, qui, en donnant des séances, tout ça au siècle dernier, des séances extraordinaires d'illusion, terminait toujours en disant « Mesdames et messieurs, tout ce que je viens de vous présenter, il n'y a rien de surnaturel, tout ceci est basé sur la science.
Voilà. »
Et il y a eu le célèbre roi de l'évasion, Harry Houdini, qui a passé les dernières années de sa vie à dévoiler les médiums. Attention, les faux médiums. Oui, les vrais, il ne les a pas dévoilés. Bon. Et alors...
Il s'appelait Houdini par ressemblance avec le nom de Robert Houdin, bien entendu.
Il s'appelait Eric Weiss, il était d'origine hongroise, oui. Né en Amérique, mais par admiration pour Robert Houdin, il s'est appelé Harry Houdini. Enfin, j'ai à la maison une photographie de Harry Houdini en train d'expliquer un tour spirit. Alors vous voyez Harry Houdini assis à une table, en face de lui il y a le monsieur qui le contrôle, oui. Et autour de cette table, debout, sont des journalistes et des scientifiques. Et Harry Houdini a les mains placées sur la table. Le monsieur qui le contrôle a ses deux mains placées sur les deux mains de Harry Houdini. En dessous de la table, vous voyez les deux pieds de Harry Houdini. Et sur les deux pieds de Harry Houdini, il y a les deux pieds de son interlocuteur, de son vis-à-vis, qui sont posés donc sur les pieds d'Harry Houdini.
Il ne peut pas faire grand-chose.
Il ne peut pas faire grand-chose, ni avec ses pieds, ni avec ses mains. Voilà. Mais en dessous de la table, il y a une sonnette. Tout d'un coup, on éteint l'électricité. Et la sonnette commence à retentir sous la table.
Voilà.
Mystérieusement, comme de bien entendu, et naturellement, comme tous les effets paranormaux, ça se fait dans l'obscurité. Bon. Quand on rallume l'électricité, eh bien, tout est en ordre. Les pieds sont sur les pieds et les mains sont sur les mains. Explication.
Oui, voilà.
Dans un des souliers de Harry Houdini, il a placé son pied avec une chaussette qui est coupée devant. Il enlève, comme ses chaussures sont assez grandes, il enlève simplement son pied de cette chaussure sur laquelle est toujours posé le pied de son vis-à-vis, qui ne s'aperçoit de rien. Et comme Harry Houdini avait les doigts de pied très prenants, avec les doigts de son pied droit, il faisait sonner la sonnette. Et après, ceci étant fait, il réintégrait son pied dans le soulier. Et voilà l'explication d'un truc paranormal.
Eh bien, le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs, quand on a affaire à des fanatiques convaincus, ils peuvent vous dire, eh bien, c'est très bien, les prestidigitateurs font cela, mais ça n'empêche pas l'explication surnaturelle d'être possible aussi. On ne peut pas en effet dire que la prestidigitation a démoli l'explication surnaturelle. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'auparavant, beaucoup, disons, de partisans du spiritisme, disaient « jamais vous ne pourrez faire cela en prestidigitation ». On leur dit « si, on peut également le faire comme cela ». Ensuite, à chacun de choisir avec d'autres critères, bien entendu. Vous me disiez tout à l'heure que des expériences comme celle-ci ne réussissent en effet que dans l'obscurité. Et vous me disiez, mais c'était la semaine dernière, que l'infrarouge n'est pas utilisé en prestidigitation classique. Et c'est d'accord, enfin, ni vous ni moi ne le savons. Par contre, la photo en infrarouge et le cinéma en infrarouge ont servi à démasquer un grand nombre de fraudes de spirites en enregistrant à leur insu les mouvements qu'ils faisaient, enfin, à leur insu et à l'insu de leurs dupes. Et ensuite, on projetait des films qui avaient été pris en infrarouge, et ça, on ne s'en aperçoit pas. L'infrarouge, c'est comme ça reste de l'obscurité. Quand on le projetait, on s'apercevait que le charlatan qui a fait son expérience avait tiré un ectoplasme de sa bouche, je ne sais pas en quoi encore. On peut dire, et on a dit d'ailleurs, que l'infrarouge a fait disparaître les ectoplasmes. À partir du moment où il a été clair qu'on pouvait tout photographier ou cinématographier avec de l'infrarouge à l'insu, par conséquent, de toute l'assistance, eh bien, il n'y a plus d'ectoplasme. On peut se demander, maintenant, si certains faits historiques ou certaines légendes, je ne sais pas, ne peuvent pas s'expliquer par de la prestidigitation, sans prendre position sur le fait qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de prestidigitation.
Oui. Écoutez, avant d'aller dans...
Oui.
En arrière dans l'histoire, je voudrais vous citer une autre histoire de Harry Houdini. J'ai la photographie à la maison aussi. C'est Harry Houdini qui est assis. Il feuillette un grand livre, un grand album, et à côté de lui, il y a en transparence le spectre d'Abraham Lincoln, le regretté président des États-Unis. Eh bien, c'était une plaque simplement à double impression.
Ben voilà.
C'est-à-dire, il a photographié dans un coin de la plaque le portrait d'Abraham Lincoln, et après, quand on l'a photographié lui, tout était net et clair, sauf Lincoln, qui était naturellement en transparence, parce qu'il y avait une double exposition. Alors, pour en revenir à l'histoire du passé, vous savez que la Piti, la célèbre prophétesse, qui était debout sur un trépied, et il y avait des vapeurs autour d'elle, et il y a la voix d'Apollon qui sortait d'elle, on imagine, on croit, et on est même certain que c'était tout simplement une ventriloque.
Oui, c'est vrai.
Si c'était une bonne ventriloque, elle n'avait pas besoin de vapeur. Mais si par exemple, ses lèvres bougeaient un tout petit peu trop, elle faisait monter des vapeurs. Tout ceci est excessivement simple. Il y a eu, je ne sais plus sur quel fleuve, on faisait gronder les flots du fleuve. Ça grondait naturellement, pas d'une façon extraordinaire, parce que le grondement d'un seul ventriloque n'est pas suffisant pour donner l'illusion d'un fleuve. Mais pour celui qui est un peu crédule et qui est à côté, ça suffisait amplement.
Bien sûr. Eh bien, je voudrais vous poser une dernière question, toujours sur les rapports des sciences ou des techniques et de la prestidigitation. Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a encore d'ailleurs, mais ça nous le verrons ensuite, est-ce qu'il y a eu dans le passé des savants, des scientifiques ou des techniciens éminents qui ont été férus de prestidigitation ?
Ah oui, écoutez, il y en a eu beaucoup, je ne vais pas vous les citer tous parce que ça va être trop long, mais il y a eu surtout un des frères Lumière, Auguste Lumière, qui était un fervent de la prestidigitation et qui a dit que la prestidigitation l'a beaucoup aidé dans ses recherches biologiques, chirurgicaux, etc. Et ensuite, nous avons eu un ingénieur qui s'appelait Rémy Cellier, qui a sorti aussi un livre sur la prestidigitation, etc., etc. Mais vous-même, monsieur le Lyonnais, je crois que vous êtes membre de l'Association française des artistes prestidigitateurs, l'AFAP.
L'AFAP, et je m'en honore. J'en suis membre depuis 23 ans.
Eh bien.
J'ai la carte 701 de 1948, je pourrais vous la montrer, et vous y verrez, comme sur toutes les cartes des membres, que j'ai signé le serment du secret.
Le serment du
secret,
bien
entendu.
Oui.
Alors, eh bien, justement, dans les scientifiques actuels, est-ce que vous avez encore quelques autres noms à m'indiquer ?
Oui, il y a un chercheur du CEA, mais malheureusement, son nom m'échappe pour l'instant.
Je le connais bien, ça.
Ah, vous
très
le connaissez, oui.
CEA.
Ensuite...
Du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, bien
naturellement,
sûr.
Naturellement, oui. Monsieur Gautron, je crois.
Oui.
Voilà. Ensuite, je ne parle pas... Il y a quelques années de cela, mourait le regretté docteur Jules Dautel, qui était le président de notre association... Et qui était un très grand bonhomme dans la prestidigitation aussi, qui a sorti toute une encyclopédie qui s'appelait La prestidigitation sans bagage ou 1000 tours dans une valise. Il y a eu un chirurgien esthétique qui est mort aussi il y a quelques années de cela, c'est le docteur Dufour-Montel, qui était une célébrité en tant que chirurgien, naturellement.
Oui.
Il y a aussi mon ami le docteur François Eudel, qui est chirurgien, grand chirurgien et grand manipulateur, etc., etc.
Eh bien, retournons la question. Après les scientifiques qui ont aimé la prestidigitation, il y a aussi des prestidigitateurs. Ou y a-t-il eu des prestidigitateurs qui ont fait des travaux scientifiques ou des travaux techniques valables ?
Oui, il y en a eu, il y en a eu pas mal. Il y a eu, je vous ai parlé tout à l'heure du Toulousain Cazeneuve qui a sorti des livres sur l'astronomie, sur les mathématiques, etc.
Oui.
Et il y a eu, c'est le plus grand de tous, et on en revient toujours au même, c'est Jean-Eugène Robert Houdin.
Toujours Robert Houdin.
Robert Houdin, donc, qui a fait des inventions. Nous avons dit la semaine dernière que c'était un grand horloger, fils et petit-fils d'horloger. Alors, il a sorti des pièces mécaniques qui étaient basées sur l'horlogerie. Quand il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'il vive, il avait inventé le réveil briquet, qui lui a permis de vivre, je crois, plusieurs années, tellement ça se vendait bien. Ce réveil briquet allumait une bougie miniature à l'heure choisie par la personne désirant être réveillée de cette façon.
Voyez-vous, c'est un beau gadget.
Il n'y avait pas la célèbre sonnerie que nous avons aujourd'hui qui vous fait sauter en l'air. Hein. Il a aussi inventé un système d'horlogerie. Alors là, je le cite, « remettant d'accord une pendule qui viendrait à décompter ». Il a aussi, nous en avons parlé, comme il était un grand inventeur dans le domaine de l'électricité, il a aussi adapté l'électricité à l'horlogerie. Et ainsi, il a inventé et construit, et même déposé le brevet, du grand régulateur électrique qui transmettait l'heure aux 5 horloges de sa maison. Et pour chacune de ces horloges, le mouvement était donné par une minuterie placée derrière un cadran et mue électriquement. Un électro-aimant, lui, faisait mouvoir un levier sur lequel était fixé un cliquet, lequel agissait à chaque mouvement du levier sur une roue qu'il faisait avancer chaque fois d'une dent. Et chaque dent représentait une minute.
Bien sûr.
Et alors, pour terminer, de parler de l'électricité, ça c'est le grand truc de Robert Houdin, qui n'était pas un truc mais une invention extraordinaire. Robert Houdin, tenez-vous bien, inventé 15 ans avant Edison, la lampe électrique à filament végétal.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Eh bien, je crois bien que les plus étonnants des prestidigitateurs, ce sont, je ne dirais pas les scientifiques, mais c'est la nature elle-même. On n'en finirait pas de décrire les phénomènes qui semblent impossibles, qui semblent surnaturels, et qui cependant sont tout à fait réels et tout à fait naturels. Et j'aimerais bien donner quelques exemples de cette prestidigitation naturelle à mes lecteurs. Disons par exemple les interférences. À partir du moment où on s'est aperçu, 18e et début 19e, que la lumière est une ondulation, on s'est rendu compte que lorsque deux faisceaux lumineux se croisent, il peut y avoir sur la plage de croisement, on était sûr auparavant que l'intensité lumineuse sera encore plus grande, parce que ça s'ajouterait. Pas du tout, il peut y avoir de l'obscurité là où la lumière s'ajoute à la lumière. Ça a paru très surnaturel en son temps. Mais je vous citerai peut-être plus fort ou plus étonnant. Toujours à propos de la lumière, d'ailleurs. Au début du XIXe siècle, le grand physicien Fresnel, qui justement défendait la théorie ondulatoire de la lumière, se trouvait en butte à l'opposition d'un très bon physicien et très bon mathématicien, Poisson, qui s'appelait Poisson, membre comme lui de l'Académie des sciences, et qui, dans une communication de l'Académie des sciences, lui dit « Eh bien, monsieur Fresnel, je vais vous prouver que votre théorie de la lumière ondulatoire est mauvaise, est fausse. En effet, imaginez une source lumineuse, dit-il. Pas très loin de cette source lumineuse, un petit disque opaque qui forme écran. Et puis, plus loin, un grand écran. Par conséquent, la lumière éclaire le disque et arrive à l'écran, il y a une zone d'ombre qui est l'ombre projetée par cet objet. Au centre de cette ombre, si votre théorie était juste, j'ai fait les calculs, il faudrait qu'il y ait un point lumineux. Alors évidemment, c'est pas possible. Fresnel, qui n'était pas aussi bon mathématicien que Poisson, lui dit, écoutez, vous êtes si bon mathématicien que je dois vous croire. Faisons l'expérience. On a fait l'expérience, on peut la faire tous les jours, on la fait continuellement. Au centre de l'ombre, il y avait bien un point lumineux. Car la lumière, en passant sur les bords de l'écran, se rabat un petit peu pour aller reconstituer la lumière au centre de l'ombre. Je n'en finirai pas, évidemment, de citer toutes ces prestidigitations de la nature. Je crois que dans les sciences actuelles, dans les découvertes actuelles, la plus étonnante, c'est peut-être celle que nous propose Einstein avec la relativité du temps. Car le jour où on réussira, et il n'y a pas de doute qu'on devrait pouvoir y arriver, à réaliser la célèbre expérience de l'astronef de Langevin, où des gens partent dans un astronef et reviennent, disons, 2 ans plus tard, vieillis de 2 ans, et retrouvent la Terre vieillie de 200 ans, cette fois-ci, c'est 2 siècles qui ont été escamotés par la nature ou par Einstein. Que sais-je encore ? Eh bien, je crois en tout cas que nous devons remercier et la prestidigitation qui nous fait passer d'aussi bons moments et aussi la grande magicienne qui transforme nos existences matérielles, qui transforme nos rapports sociaux et nos idées, la science en marche.
C'était La Science en marche, la prestidigitation et les fausses sciences. 2e et dernier volet d'une émission proposée par François Le Lyonnais. Première diffusion sur France Culture le 27 janvier 1972. François Le Lyonnais recevait Michel Seldo, auteur du livre « Les illusionnistes et leurs secrets ». Vous pourrez réécouter en ligne cette émission et la précédente en la ou les téléchargeant sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».